I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Coucou les légendes, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour un épisode spécial JO avec le porte-drapeau paralympique Stéphane Houdet. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Dans cette seconde partie, Fanou, comme on le surnomme, nous partage son sentiment de participer aux Jeux Olympiques, certes, mais 15 jours après les valides, avec une couverture médiatique bien moindre. Il nous raconte qui sont les superstars des Jeux Paralympiques. Il revient pour nous sur son meilleur souvenir au JO de Rio en 2016. Nous détaille la complémentarité qu'il a développée avec son partenaire de double Nicolas Pfeffer, médaillé d'or ensemble à Rio. Steph nous explique enfin la manière dont il prépare sa quatrième Olympiade à 50 piges, avec tous les outils à sa dispo et sa connaissance ultra pointue du milieu. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'encouragement à notre invité Stéphane Houdet sur Instagram où il est très présent. Bel été les légendes, bon JO et bonne découverte à tous. Tu nous as parlé un petit peu de l'ambiance au village avec les infrastructures, la logistique. Est-ce que tu sais les différences majeures entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques? Forcément, en termes de visibilité, c'est après, c'est pas forcément à la même échelle. Mais est-ce que toi, tu as des données comme ça? Est-ce que tu sais vraiment de l'intérieur pour l'avoir vécu, quoi?
Bon, alors, ce qui est sûr, je vais te le lancer en boutade puisque j'ai vu que la question était posée. Il y a aussi beaucoup de préservatifs qui sont distribués. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant d'utilisés.
Ouais, c'est de la question, c'était réputation, c'est voilà. D'être une orgie au JO. Est-ce que c'est pareil au para? Du coup, voilà. Pas forcément autant. Quoi.
Ouais, non, je suis moins sûr. Différence, on a quelques sports qui sont différents. On a des sports qu'on retrouve uniquement aux Jeux paralympiques, comme la boccia. La boccia, c'est une sorte de pétanque. Qui peut jouer soit en fauteuil roulant, donc dans ce cas-là, c'est de la pétanque, mais aussi parfois avec des dispositifs particuliers pour les gens qui n'arrivent pas à lancer la boule. Et là, c'est un jeu d'adresse où, comme au bowling, tu vas mettre la boule sur un guide. Là, j'ai regardé le basket à 3 contre 3, c'est génial. Qu'est-ce que je peux te dire comme...
C'est pas trop frustrant de pas tout faire en même temps, par exemple, tu vois, d'être avec la première session, on va dire, de Jeux Olympiques, quoi.
Écoute, quand on participe au tournoi du Grand Chelem et qu'on est dans les vestiaires avec les grands noms, en l'occurrence du tennis pour moi, mais les grands noms du tennis qu'on connaît, c'est sûr que ça doit être magique de participer à une épreuve où on pourrait être tous réunis. Et je ne le mets pas dans le cadre de la frustration, je le mets dans le cadre de l'évolution et que ça viendra peut-être un jour avec des sports communs qu'on pourrait soit inventer, soit simplement ouvrir, comme le tennis. Si tu as envie de t'asseoir, tu joues avec moi. Et puis c'est fini, ça devient le premier sport en fauteuil, candidat aux Jeux Olympiques, terminé. Yes. Ça, c'est vrai que j'aime bien cet angle-là.
Est-ce qu'il y a des superstars aux Jeux Paralympiques? J'imagine qu'il y en a, mais si oui, lesquels?
Ouais, alors la superstar déchue aujourd'hui, parce qu'il a montré que tu pouvais être différent et aussi contre les autres, dangereux, tout ce que tu veux, c'est Oscar Pistorius.
Ouais.
Puisque Oscar, il avait il était numéro 3 en termes de contrat de sponsoring à l'époque. Il était suivi par les médias de façon tout à fait incroyable, puisque quand il est en demi-finale des Jeux de Londres, aux Jeux Olympiques, il a plus de médias que n'importe qui. C'est jamais arrivé d'avoir autant de médias sur la piste pour une demi-finale. C'était notre superstar. Après, on a aujourd'hui un sauteur en longueur qui s'appelle Marcus Rehm, qui était le meilleur performeur de l'année, qui est un gars qui est incroyable, mais un peu moins connu, certainement parce que le sport est un peu plus confidentiel, je dirais, ou en tout cas, peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu le droit de participer au jeu. Où là, justement, parmi les erreurs de communication de Pistorius, il y a eu aussi le fait qu'il ait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques avec une lame en défendant pendant des années qu'une lame n'était pas un avantage. Sauf qu'en perdant la première course des Jeux Paralympiques dans la foulée, il s'est plaint de l'athlète brésilien qui venait de le battre en disant « Ah ouais, mais de toute façon, ces lames, elles sont trop grandes. C'est tellement un avantage d'avoir des lames que c'est pas possible. » Donc le gars, c'est le cas de le dire, il nous a coupé l'herbe sous le pied, à défaut de nous couper les jambes. Donc lui, il s'est coupé de sa vie de sportif, mais à mon avis, il a un peu coincé les autres, en l'occurrence Marcus Rehm. On a une joueuse de tennis de table qui est en train de participer là en ce moment, qui est juste incroyable, qui s'appelle Natalia Partica, et elle joue les Jeux Olympiques, et elle est quintuple championne paralympique, déchire tout au tennis de table. Et je crois que sa meilleure perf, ça a été d'avoir battu la numéro 5 mondiale aux Jeux Olympiques.
Mais c'est quoi son handicap du coup ?
Elle a une malformation de naissance et elle n'a pas de main.
D'accord.
Côté gauche, donc elle coince la balle dans son cou pour l'avancer au service.
Et non.
Puis après, elle joue... Ou c'est l'inverse, elle est peut-être gauchère. Après, ça dépend des nations, en fait. L'Afrique du Sud suit beaucoup ses athlètes. Et il y a un jeune garçon pour lequel je suis vraiment très heureux que ça se passe comme ça, mais il s'appelle Tando. En fait, il est dans un programme pour lequel j'étais ambassadeur. Je l'ai fait équiper de prothèses quand il avait 13 ans, 14 ans. Et le gars est arrivé à l'époque, c'était à Doha. Avec ses deux prothèses, on a fait une présentation sur scène de ses prothèses de course, mais il a commencé à jouer au foot et à courir, et aujourd'hui il a le record du monde, à l'époque il avait eu le record du monde assez vite chez les juniors, et puis là maintenant je pense qu'il est ultra favori aux 100, 200 ou 200 et 400.
Okay.
Et donc c'est un personnage incroyable. Et en Angleterre aussi, tu as beaucoup de suivi des athlètes. Donc, je pense que Gordon Reid, chez nous, au tennis fauteuil, et Alfie Witt commencent à être bien connus. Mais tu as aussi un gars qui s'appelle Jimmy Peacock. Tu as une nageuse.
Et puis, tu as Shingo.
Évidemment. Et puis, tu as le grand Shingo Kunieda qui est juste incroyable. Et à l'échelle d'un peuple qui suit tellement tous ces athlètes, qui s'approprie Naomi Osaka, qui fait ça avec Nishikori, qui fait ça avec le japonais qui vient de gagner le Masters aussi de golf. Ils en ont toute une collection. Mais en tout cas, ouais, Shingo, parmi les signes qui montrent que c'est une superstar dans son pays, il y a aussi un dessin animé qui est sur lui.
Ok, rien que ça.
Ouais, c'est... Et puis, moi, je me suis amusé, hein, mais j'ai fait des conférences de presse au Japon. Ouais. Pour le Japan Open, tout simplement, où je prenais en photo les gens qui étaient en face de moi, et c'était que des journalistes, parce que tu avais 4 télés, 35 presse écrits, 20 radios, et je disais, attendez, je peux. Mais c'était incroyable. Même quand moi j'étais commentateur, j'avais accès aux salles de conférences de presse, à l'Australian Open, à New York ou à Roland, j'avais jamais vu autant de monde. C'est incroyable.
Ouais, c'est bon ça. Alors Rio, Steph,
ouais.
Une anecdote sympa et puis peut-être ton meilleur souvenir de là-bas.
Ouais, alors Rio, forcément, on a un truc incroyable.
Ouais.
C'est que le jour de la finale, dans le grand resto, au moment du déjeuner, je suis avec Nicolas et là, on a un monsieur qui arrive en face de nous et on est tous les deux complètement quoi. Et on se dit, mais c'est pas vrai. En plus, le village, c'est interdit de rentrer.
Ouais.
On savait, on avait vu notre secrétaire d'État, qui c'est Golden Neville, qui était venu avec, à l'époque, qui était venu avec sa directrice de cabinet, mais pas dans le restaurant. Là, dans le restaurant, on pouvait se croiser au Club France ou sur les épreuves. Et là, dans le restaurant, un monsieur qui vient, nous, on connaît tout de suite, et en fait, c'est le commissaire au sport militaire. Et le commissaire au sport militaire, qui s'occupe de nous, puisqu'à l'époque, je suis au ministère des Armées, et il s'occupe de l'armée de champions, et Nicolas est dans l'armée de champions. Je suis devenu conseiller sport et handicap au ministère des Armées, mais je suis aussi dans l'équipe. Il vient de voir et il dit, moi, les gars, vous êtes en finale, il n'était pas question que je vous laisse de côté. La nation vous sera à tout jamais reconnaissante, et le ministère aussi. Donc, sachez que s'ils appellent ça comme ça, et s'il y a une levée des couleurs, c'est-à-dire si vous gagnez la médaille d'or, je vous saluerai. Donc, il nous fait ça. Et on se regarde avec Nicolas et on se dit, nous, mon colonel, mon commissaire, on va vous saluer aussi en retour. on est civils tous les deux, mais on se dit, on va saluer en retour. On gagne. Et là, c'est la Marseillaise. Et puis, on est fiers comme des bartabas tous les deux. Et on regarde et on le voit en face de nous qui nous salue. On voit le drapeau qui monte, on regarde et puis on fait. On se fait comme ça. Et il se trouve que cette anecdote perdure puisque ce geste va être salué des mois plus tard. Toute l'armée de champions est réunie. Et entre-temps, mon cousin, qui est fils de général, me dit c'était magique, hein, fan de tennis, fan de judo aussi, fantastique la médaille d'or, les gars. En revanche, Stéphane, on n'a pas le droit de se saluer quand on est civil. Et puis, on n'a pas le droit de se saluer quand on est à découvert, c'est-à-dire quand on n'a pas de képi, de casquette. Je dis, ah bah mince alors, ça je ne savais pas, désolé. Bon, ok. Et on se retrouve à Ballard, dans le bâtiment du ministère des Armées, toute l'armée des champions, tous les grands noms olympiques et paralympiques que tu connais. Moi, le commissaire au sport militaire me dit, je suis aux États-Unis, il me dit, Stéphane, vous rentrez, je vous mets dans un avion, vous faites l'aller-retour, parce que je joue un tournoi, mais il faut que vous soyez là ce soir. Bon, je dis, bon, ok. En plus, j'étais avec ma fille aux États-Unis, et je l'ai laissée pendant 3 jours, je crois, toute seule chez des amis, parce que j'étais vraiment contraint de faire l'aller-retour. Sachant qu'il y avait une cérémonie, mais on ne savait pas ce qui allait se passer, en dehors du fait qu'il y avait aussi le général des armées, qui est Pierre de Villiers, qui était là, numéro 1 de l'armée, Jean-Yves Le Drian, le papa d'Alexis Vastine, qui a un maillot, en plus, un pull, Roland-Garros, c'est marqué Roland-Garros dessus. Okay. Et bref, donc, il y a tous les nominés. Et Nicolas et moi, on est sur le côté, on est civil, on a une médaille d'or, mais bon, c'est paralympique et on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est la remise du prix Alexis Vastine. Et donc, c'est le prix le plus important pour l'armée de champions. Et le commissaire dit le prix sera attribué à Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet.
Oh, super.
Donc là, on est sur l'estrade et donc Pierre de Villiers vient nous voir tous et nous serrer la main en nous félicitant pour ce geste. En fait, le geste qui est honoré, c'est le fait d'avoir salué, et la victoire, mais d'avoir salué le drapeau tricolore avec la Marseillaise. Et je lui dis, mais vous savez, mon général, il faut que je vous dise, je suis désolé, mais je ne savais pas. On ne pouvait pas saluer à découvert et qu'on ne pouvait pas saluer quand on était civil. Il me regarde dans les yeux et il me fait, vous savez Stéphane, on s'en fout. Il voulait...
Si tu veux nous aider à développer le podcast, tu peux le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite. Ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de te lire. Sache que tu as aussi accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de ton jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault qui bosse avec Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev entre autres. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin te permettre de jouer plus relâché sur un court de tennis. Allez, on y retourne.
Ils étaient tous très heureux que ça se soit passé comme ça, puisque aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être en tenue militaire sur les podiums. Ouais. Avant, tu voyais de temps en temps des cavaliers qui étaient avec les tenues militaires, même des coureurs. Maintenant, c'est fini. Tu n'as pas le droit au signe ostentatoire. Ni sur tes vêtements de ce type, donc voilà.
Nicolas, ton partenaire de double est de 90, vous avez 23 ans d'écart, je crois. Non, 20.
Ah non, t'exagères.
Pardon. Excusez-moi. Mais du coup, on est en 2016, il est très jeune médaillé, enfin très jeune, il est médaillé en tout cas. Quelle relation vous avez, est-ce que vous avez bien connecté l'un l'autre et qu'est-ce que vous apportez l'un à l'autre?
Ouais, je pense que il m'apporte sa jeunesse et puis je lui apporte mon expérience. Nicolas, il me regarde certainement comme un grand frère ou comme un parrain. Et en tout cas au début. Et puis aujourd'hui, le niveau de jeu fait que il y a plus le grand frère et le petit frère. C'est que.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, c'est vraiment une équipe et il faut qu'on soit tous les deux à fond. Et d'ailleurs, ce jour-là, le jour de la finale, c'est la première fois de notre saison et probablement de notre carrière ensemble où Nicolas va tenir le match au moment où je m'écroule. C'est-à-dire qu'on joue super bien le premier set et j'ai mal au dos au début du deuxième et je m'écroule un peu. Et là où, en général, quand je m'écroule, malheureusement, et ça l'enfonce aussi, et ben là, il est surdopé, surmotivé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant pour ceux qui veulent aller chercher l'info, mais le match est sur YouTube et sur la fin, on entend la musique et on nous entend se parler. Et les mots de Nicolas, dans la motivation, font qu'on repart. Et là, c'est vraiment la bonne coordination dans l'équipe. Et quand un va pas, l'autre est là et inversement. Et on va chercher l'ordre comme ça, tous les deux.
C'est bon, ça. Quel est son handicap? Je ne connais pas du tout.
Son coup droit. Son coup droit sur Balot.
Salopard.
Sur Balot, quand elle avance pas, il a du mal à la faire comme il faut. Mais sinon, de naissance, il a eu une malformation et il a été amputé des membres inférieurs au-dessus du genou.
Comment est-ce que tu vas réussir à rester focus en étant aussi sollicité du coup à Tokyo?
Bah là, j'ai demandé, est-ce qu'il n'y ait pas de public? Est-ce qu'il y a une pandémie dans le monde entier pour que nos familles ne puissent pas venir?
Ouais, et du que coup, ça filtre.
Voilà, donc ça limite.
Ouais, tu m'étonnes.
Ouais, je pense que là, on va faire beaucoup de digital, plus que d'habitude. Et puis, c'est vrai que le tennis, c'est une épreuve qui est longue, contrairement au judo. Et là, j'ai la chance d'être en binôme avec Sandrine. Donc, Sandrine, elle va faire son épreuve et après, elle va pouvoir bouger plus que moi. J'espère ne pas pouvoir trop tôt bouger puisque ça voudrait dire que j'aurais perdu. Et ensuite, on va se compléter là-dessus. Et puis, moi, je laisserai mon numéro à disposition pour tous les athlètes et ceux qui ont besoin d'échanger, on échangera. Mais on a des moments aussi où on se retrouve dans le bâtiment de l'équipe de France et où on peut être posé à échanger sans que ce soit une consommation d'énergie importante, surtout quand on a l'expérience.
Donc, le rôle aussi de porte-drapeau, c'est d'être référent des athlètes. Et à la moindre question, tu es là pour répondre, c'est ça? Tu dis, tu laisses ton numéro à disposition?
Non, ouais, alors non, pas référent des athlètes, parce que tout ce qui est administratif est aussi géré par le staff. Mais en tout cas, des plus jeunes ou des gens qui auraient des demandes plutôt sur la manière. Pour moi, pour bien réussir ces jeux, il faut savoir mettre l'événement à distance. En se disant pas c'est l'épreuve, parce qu'on m'a trop dit ça, moi. Longtemps on m'a dit les jeux c'est l'épreuve, c'est fantastique, c'est incroyable, faut vraiment réussir ces jeux. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se planter. Évidemment faut réussir ces jeux, mais ce sont nos objectifs en permanence. Donc on se donne les moyens de se retrouver performant au moment de l'épreuve et on appréciera les à côté de l'épreuve après la nôtre. Parce que comme je te dis, à Pékin, faire le tour du village, faire le tour de « Ah, mais qu'est-ce qui est possible à cet endroit-là » Il y a tellement de choses possibles que tu vas partout, que tu as envie d'aller voir les autres. Que moi, le deuxième jour, je regarde, parce que les copains m'y invitent, et ça, c'est bien, mais je regarde un combat de Sandrine Martinet, c'est sa finale, et elle a toujours tout gagné. Au jeu précédent, elle s'est plantée, et donc là, elle est en finale, et elle va chercher la médaille d'or, parce que c'est là, vraiment la qui domine le judo. Et puis bah, le judo, 1:30, il se passe une prise, et puis finalement elle perd. Et c'est tellement émouvant, tu es pris par le truc, tu as consommé beaucoup d'énergie. Et si tu restes là-dessus et que tu joues le lendemain, tu peux déjà être un peu raplapla. Donc il faut aussi savoir apprécier ce que font les autres. Mais ça arrive à tous les joueurs de tennis. C'est que avant ton match, si tu regardes le match d'un copain, tu te crames un peu. Parce que tu t'excites, tu dis ah, attends, il y a 6 partout, 6-4. Oh, il a sauvé une balle de match, ah, il revient. Et puis voilà, tu ne fais pas exprès, mais tu consommes de l'énergie. Donc, cette partie-là, mettre l'événement à distance pour pouvoir apprécier l'événement a posteriori et être super performant sur ton truc, parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'apprécier, je pense, que d'avoir un truc autour du coup.
Tu auras 53 piges si tu participes à Paris 2024, ce qu'on te souhaite évidemment. Mais déjà,
un problème avec les dates. Hein.
C'est pas ça?
Oh bah si, si, mais...
Ah, bah tu vois. Comment, mais déjà, avant ça, comment tu te sens en ce moment, où t'en es? Tu t'entraînes, là, tu reviens juste de l'entraînement. Est-ce que tu es affûté comme une lame? Dis-nous où t'en es.
Ouais, je me sens bien, je tape bien dans la balle et en même temps, on a un joueur en ce moment qui est super fort, qui est
Ouais.
le joueur anglais, qui s'appelle Alfie Hewitt, et qui là a éclaté en quart, mais a éclaté à son compatriote en demi, et puis Shingo Kuneda en finale, là, au British Open. Et lui, c'est très très particulier, d'ailleurs, je le félicite de pouvoir être autant engagé, puisque la Fédération internationale de tennis l'a viré de notre sport. Et étant donné qu'il y avait les jeux, ils ont dit, bah, on te laisse faire les jeux. Et comme on te laisse faire les jeux, on te laisse faire les épreuves qui précèdent, et certainement celles qui suivent, jusqu'au 31 décembre, au départ 2020, comme les jeux ont été décalés, 31 décembre 2021. Il se trouve qu'ils ont, sous la pression du Comité paralympique international, décidé de revoir leur système de minimum handicap pour jouer au tennis. Donc complètement à l'opposé de ce que moi je veux faire et faire en sorte que le tennis soit un sport, le tennis fauteuil soit un sport ouvert à tous. Ils ont dit, bah, si t'es pas assez handicapé, t'as pas le droit de jouer. Et il se trouve que lui, ils ont défini que c'était son cas. Voilà, il s'entraîne énormément, il joue très bien, il nous permet d'être plus fort aussi parce qu'on doit s'améliorer pour jouer avec lui et le battre. Et voilà, ils ont pris cette décision. À mon avis, ils se sont mis une épine dans le pied parce que je sais pas comment ils pourraient revenir en arrière, mais en même temps, c'est quand même incroyable d'éliminer un jeune. Il est jeune, il joue bien, il est anglais, je comprends
Combien d'heures tu t'entraînes par jour là? Comment tu te prépares?
pas. Bon, là, on était sur des tournois. Donc, quand on est sur les tournois, on s'entraîne moins, mais quand on s'entraîne, c'est un mélange de tennis, de prépa physique, et puis on a beaucoup d'exercices, enfin beaucoup d'exercices, non, des exercices sur la concentration, la prépa mentale, et on a plein de machines au Centre national d'entraînement qui nous permettent de travailler la vision périphérique et aussi la concentration avec des balles qui sont, on a un casque de réalité virtuelle, des balles qui bougent dans tous les sens, qui change de couleur et qu'on doit identifier. Donc, ça veut dire qu'on doit être concentré sur une balle, deux balles, trois balles, puis quatre balles, essayer de les suivre, les perdre et améliorer a priori notre concentration là-dessus. Je travaille beaucoup. Alors, ça, c'est un système qui a été mis en place. J'ai la chance d'avoir aussi à mes côtés un référent scientifique de la Fédération française de tennis qui s'appelle Cyril Brèche-Bulle, qui me fait travailler. Ça me convient très bien. Jamais dans le rouge. Et donc, je me souviens plus quel est le nom exact, mais c'est a priori ce qui était utilisé par Martin Fourcade. Tu travailles souvent à 80, 80, tu dépasses jamais 95% de ton max. Tu peux toujours parler pendant que tu travailles pour être au max en permanence. Ça tombe bien, max, tu vois, c'est une légende. Et donc, ça, c'est la partie avec Cyril. Et puis, je suis aussi entouré de sparring. Donc, bah, Nicolas Sarrazin, dont je parlais tout à l'heure, qui était avec moi quand j'ai appris que j'avais le porte-drapeau. Et puis, un jeune qui est en STAPS, qui vient d'avoir sa licence, que je félicite, qui s'appelle Victor Letiec. Avec son pote Vincent, ils sont tous les deux profs de tennis, passionnés de tennis, et m'ont beaucoup aidé pendant la saison, pendant la saison hivernale, et puis pendant cette année pour se préparer, parce qu'eux, ils faisaient un stage au départ. Et puis, bah, mon mentor, qui est Christian Filliol, il n'aime pas du tout le terme de coach, donc c'est un conseiller qui fait du conditionnement positif, c'est-à-dire qu'il m'aide à toujours voir le verre à moitié plein. Déjà que moi, naturellement, je le vois, mais lui, il est d'une force incroyable à tel point que ça ne choquera pas. Mais par exemple, il a perdu son père l'hiver dernier et il m'a envoyé le message comme étant une célébration qu'il venait de faire parce que son père rejoignait ce qu'il avait toujours voulu faire. C'était un pasteur, qu'il allait vivre une suite heureuse. Donc même dans la mort, lui, il voit les choses toujours positivement. Quand tu perds, c'est que tu es là pour t'améliorer, que tu as appris à t'améliorer. Si tu perds vite, comme j'ai perdu vite contre Alfie, ben c'est que j'avais besoin d'aller vite voir les autres matchs pour mieux apprendre. Et donc ça, c'est sur la partie mentale, mais sur la partie technique aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à poser des questions, et lui, il a toutes les réponses, et les réponses d'une simplicité tennistique incroyable. Il a des notes sur tous les joueurs et toutes les joueuses de la Terre, parce qu'il s'occupe de moi, mais aussi de joueuses WTA et de joueurs ATP. Et on fait des exercices. Alors, il a plein d'exercices aussi qui sont des exercices secrets,
ouais,
pour améliorer les performances, la qualité de la frappe, des trucs aussi que tu vois nulle part ailleurs. Qu'on fait, donc, quand je dis secret, c'est des trucs qu'on fait en cachette. Mais on essaye plein de trucs. On est capable, moi, je suis capable de jouer au mur et d'apprendre des trucs en jouant au mur, jouant avec deux balles. Tu as les exercices que tu vois avec Sania Mirza, mais aussi avec Cara Black, qui joue contre un mur pour parfaire ses volets. Ça, ce sont des choses qu'elle a faites avec Christian.
Il est loin, le champion du monde de la démerde qui avait 30
ans. Ouais. Bah ouais, mais
incroyable.
C'est le cadre autour. Mais parce qu'eux sont tout le temps en train de veiller sur moi, qui suis capable de m'échapper assez vite de ces trucs-là. Ma femme, la première, hein, elle, c'est une chef d'entreprise. Elle me dit toujours, elle parle méthode, méthode, méthode. Et moi, je parle créativité, créativité, créativité. Donc, on essaye
de faire marcher les deux ensemble.
De se compléter justement sur le sujet. Mais trop de méthode, moi, trop de rigueur sur les process, ça me gêne.
Ouais. Bon, en tout cas, on te souhaite évidemment la breloque de couleur or, si possible. Et deux, évidemment, va nous les chercher, Steph, et on se fait un débrief après les JO. Voilà. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci d'avoir pris le temps. Félicitations pour, voilà, cette élection de porte-drapeau. C'est absolument exceptionnel. Et je suis méga heureux qu'on ait déjà fait le premier épisode ensemble, parce que ça nous a rapprochés quelque part, et on va tourner le deuxième. On a cette petite parenthèse JO entre deux, mais je te souhaite le meilleur et on te suivra de très près, ouais, même si on est loin, quoi.
Merci Max, et ça m'a permis aussi de te suivre. Je pense que tu fais des trucs de fou, il y a un mec, tu les racontes un peu plus aussi, hein.
Ah bon?
Un jour, faudra faire le podcast de l'arroseur arrosé.
Yes, et bah écoute, ça viendra peut-être un jour. Bon, encore un grand merci Steph, et puis
merci à toi.
Ciao.
Bonne soirée, ciao.
J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial JO avec Fanou. Envoyez-lui un message sur Insta ou LinkedIn si c'est le cas. Et si vous voulez nous aider à grandir, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sympa ou un like et un commentaire cool sur YouTube si c'est l'endroit où vous consommez notre contenu. Un immense merci aux derniers aficionados qui nous ont mis un message adorable sur Apple Podcast. Foncez le faire maintenant et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Place maintenant à un mois de rediff de nos meilleurs épisodes pendant le mois d'août. Alors continuez d'envoyer vos épisodes préférés à vos potes pour bronzer tranquillou avec Santoro, Simon, Joe Tsonga, Fabs Barreau, Timéa Bazinski dans les oreilles, c'est tout bénef. Si vous êtes en tournoi cet été ou si vous voulez cirer vos potes en vacances ou même à la rentrée, hein, y a pas de raison, on a deux formations gratuites qui vont vous régaler. La première pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau, c'est le premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Je t'invite vivement à découvrir cet épisode. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te surprendre. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ce podcast, c'est environ 15 heures de travail par épisode. Tu peux nous aider à hauteur de 2 euros par semaine, 2 euros par mois plutôt même, soit un café ou plus si le cœur t'en dit. Tous les liens sont en dessous. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, c'est vraiment adorable. Et surtout, venez, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.